Vous aviez votre Bible, on avait commencé il y a 2 semaines, on est à la fin de du 6e chapitre de l'épître de Paul à Timothée. D'accord. Donc 1 Timothée chapitre 6 et à partir du verset 17 jusqu'à la fin, c'est la toute fin de la lettre. Alors on va lire ensemble ces versets, 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 17, recommande aux riches du présent siècle, pardon, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Voilà donc ces paroles qui terminent cette lettre. Mais nous nous étions arrêtés sur les versets 17 à 19. Nous avions considéré, je crois, que le verset 17. Et ce soir, nous voulons voir un peu plus le verset 18 et le verset 19. On avait remarqué que dans les versets 5 à 10 de ce chapitre, l'apôtre Paul traite de la question financière dans l'optique du point de vue des docteurs de la loi, des faux docteurs plutôt, qui étaient motivés par l'amour de l'argent. Et il avait parlé du danger que courent ceux qui veulent s'enrichir, dans les versets 3 jusqu'au verset 10, il développe ce thème-là. Dans le verset 17, il ne parle pas de ceux qui veulent s'enrichir plus précisément, mais il parle de ceux qui sont riches et ce qu'ils doivent faire. D'accord. Donc, ceux qui veulent s'enrichir, d'accord, comment ils doivent agir, et puis ceux qui sont riches et qui doivent se comporter d'une certaine manière. Nous avions déterminé ce qu'était qu'un riche, hein, quelqu'un qui est riche. On avait tous des idées peut-être plus ou moins différentes, hein, mais on avait quand même conclu que dans la région du monde où nous vivons, eh bien, nous pouvons considérer comme étant les plus riches comparativement à d'autres. Et puis que ce que l'apôtre dit ici concernant une catégorie particulière de personnes dans l'Église, eh bien, ça nous, qui sont les riches, nous concerne tout aussi. Alors on avait le verset 17, il y a deux recommandations, on pourrait dire, hein, une négative et puis une positive. Au verset 17, c'est la recommandation négative, recommande aux riches du présent siècle de ne pas, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et puis au verset 18, recommande-leur de faire des choses, de ne pas faire ceci et de faire cela. Donc on pourrait dire qu'il y a une double recommandation ici, l'une qui est négative et l'autre qui est positive. Alors on avait considéré les pièges à fuir, hein, d'après ce que Paul dit ici dans le verset 17, recommande-leur de ne pas être orgueilleux, donc il y avait le piège de l'orgueil. On avait vu que cet orgueil consiste dans la pensée hautaine qui s'attribue le mérite de la réussite. On avait vu que cet orgueil consiste dans le sentiment aussi de supériorité, hein, que l'homme riche, on avait vu des proverbes, se croit sage, il se croit intelligent, et il peut se moquer des autres. On avait vu que les riches de l'époque de Jésus se moquaient de lui, hein, un petit peu, et probablement parce qu'il était pauvre. On avait vu le deuxième écueil, donc il y avait l'orgueil, il y a aussi le piège de la confiance en soi. Voilà le piège qu'il fallait éviter, le piège de l'orgueil, mais le piège de la confiance aussi en soi. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors, quand Dieu donne quelque chose, on est tenté de se confier dans ce qu'il donne plus que dans Dieu lui-même qui donne la chose. Et c'est ça que l'apôtre dit ici, de se confier non pas dans ce que Dieu donne, mais dans le Dieu qui donne les choses. Proverbe 18:11 disait « La fortune est pour le riche une ville forte, et dans son imagination, c'est une haute muraille. » Voilà, donc il peut se confier, quand on a tendance à se confier dans la richesse. Alors pourquoi est-ce que c'est un piège? On avait vu que c'est un piège à cause du caractère temporel des richesses. Il souligne, les riches du présent siècle, qui ne doivent pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines, donc ça veut dire qu'elles peuvent disparaître. On avait vu aussi que c'est un piège à cause du caractère éphémère de la vie. Nous n'avons rien, au verset 7, l'apôtre Paul disait, nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Nous n'avons pas apporté quoi que ce soit, et nous ne pouvons pas partir avec quoi que ce soit de plus. Et puis, c'est un piège parce que l'espérance dans l'incertain nous prive de l'espérance en Dieu. Quand on place sa confiance dans ce qui est incertain, on la déplace forcément de Dieu pour la placer dans ce qui est incertain. Alors ça, c'était les pièges à éviter, si on veut au verset 17. Si on regarde le verset 18, il dit « Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonne œuvre et d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Donc, je ne sais pas si j'avais posé une question sur cette... Je n'ai pas revu les questions là, que je vous avais laissées hein, sur ce verset-là. Qu'est-ce que j'avais demandé? Oui. Voilà. Comment les richesses devraient-elles être, d'après ce verset, considérées par ceux qui les possèdent? Alors, est-ce que vous avez peut-être... Vous avez cherché ça et vous avez des réponses à apporter? Oui. Voilà, comme des bénédictions pour bénir les autres, d'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un a mis autre chose? Non? D'accord, bien. Donc, ce verset-là, je le résume avec un mot, hein, enfin une expression, c'est que Paul exhorte Timothée à enseigner, à recommander, à commander même aux riches du présent siècle à saisir les opportunités, qu'il y a des opportunités à saisir avec leur richesse, à saisir les opportunités, comme tu as dit, de bénir les autres, de servir les autres. Autrement dit, il est en train de dire que les richesses doivent être considérées comme une opportunité que Dieu donne pour accomplir un certain nombre de choses à l'égard des autres. Ce n'est pas comme ça qu'on regarde les richesses en général. On regarde comme une bénédiction que Dieu nous fait à nous, n'est-ce pas? Et peut-être même on regarde ça comme une bénédiction, une récompense à cause de notre, je sais pas, piété ou de notre bonne conduite, un peu comme les pharisiens du temps de Jésus qui méprisaient les autres et qui voyaient dans la richesse le signe d'une bénédiction et d'un certificat que Dieu a posé sur leur bonne attitude ou leur bonne conduite. Mais ici, Paul dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre et d'avoir de la libéralité et de la générosité. En fait, il leur dit ce qu'ils doivent faire avec les richesses qu'ils ont de la part de Dieu. Et que doivent-ils faire? Eh bien, faire le bien. Donc, faire le bien, c'est un terme général qui laisse entendre toutes sortes de biens, sans limite. Hein. Tout ce qui est bien à faire et qu'ils trouvent... Il y a un verset qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Hein. Je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, peut-être. Hein. C'est un peu cela, hein. Donc faire le bien. Et c'est la seule fois où on trouve ce mot-là ici, dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, c'est ici. Mais ça fait penser quand même à d'autres endroits où il est question de faire du bien. Dans Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul parle aux Athéniens, hein, devant ce parterre de philosophes, Il dit au verset 14, quoi qu'il naisse, il parle de Dieu, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, Dieu rend témoignage continuellement de ce qu'il est, il dit, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il dit, voilà, Dieu ne cesse de faire du bien. Et comment il fait le bien ? Il fait le bien en envoyant la pluie, en donnant les saisons, en donnant la nourriture avec abondance, en produisant même la joie par toutes ces choses-là. Et donc, il montre que le bien ici a pour champ d'application différents domaines. C'est pas juste dans un endroit particulier, c'est faire le bien dans différents domaines où on peut faire le bien. Et quand on a les moyens, que Dieu donne les moyens, financiers, en biens matériels, eh bien, Paul dit à Timothée ici, pour ces personnes-là, tu leur dis, voilà ce qu'elles doivent faire avec le bien que Dieu donne. Alors, le riche, on pourrait dire ici, donc ce qu'il dit, hein, que le riche, il a des opportunités diverses d'utiliser à bon escient les biens que Dieu lui donne. Alors, Paul va dire comment ils doivent faire. Il dit donc, dis-leur de faire du bien et d'être riche en bonne œuvre. Et que l'apôtre Paul avait déjà parlé beaucoup des bonnes œuvres dans cette lettre. Par exemple, au chapitre 2, verset 10, il parle des femmes qui doivent se parer de bonnes œuvres, pas mettre leur temps dans les habits somptueux, les ornements, etc., mais de se parer de bonnes œuvres, comme font les femmes qui font office de servir Dieu. Ici, au chapitre 5 et au verset 10, il a parlé des veuves qui accomplissent des bonnes œuvres. Donc, c'est juste à côté. On peut voir ici, au verset 10 du chapitre 10, il dit qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. On voit encore ici, hein. Il donne quelques domaines dans lesquels doivent appliquer les bonnes œuvres. Et puis ensuite, il dit, mais toute espèce de bonne œuvre. Et quand il parle des riches, il dit riches en bonnes œuvres, ça veut dire dans beaucoup de domaines différents. Au verset 25 du chapitre 5, il parlait des bonnes œuvres aussi concernant les anciens. Il dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester caché. Donc, quelque part, on veut dire que l'apôtre Paul ne considère pas la vie chrétienne ici sans pratique de bonne œuvre. Que ce soit pour les veuves, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les anciens dans l'Église, il y a des bonnes œuvres que l'on doit accomplir. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, hein, que Dieu a préparées aussi d'avance. Et donc, il y a plein de domaines, comme ceux qu'on vient de voir ici, qui sont des domaines où on peut accomplir les bonnes œuvres. Mais ce que Paul dit ici, c'est plus que simplement accomplir les bonnes œuvres. Il parle de ceux qui sont riches matériellement. Et il leur dit qu'ils doivent être, pas simplement, il ne dit pas qu'ils doivent accomplir des bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il dit ? Ils doivent être, regardez comment c'est écrit, riches en bonnes œuvres. Ils sont riches matériellement et ils doivent être riche en bonne œuvre. Pas simplement qu'ils doivent accomplir des bonnes œuvres, mais ils doivent le faire. Et le mot riche, c'est le mot qui veut dire avec abondance. Ils doivent abondamment pratiquer des bonnes œuvres. Autrement dit, l'abondance de leurs bonnes œuvres doit être à la hauteur de l'abondance de leur richesse matérielle. Plus ils sont bénis, riches matériellement, plus ils doivent faire, ils sont appelés à accomplir de bonnes œuvres. Donc, leur richesse matérielle, on pourrait dire, est un tremplin pour leur richesse en bonne œuvre. Et puis, l'apôtre Paul explicite un peu sa pensée en montrant l'attitude ou la disposition avec laquelle ils doivent accomplir cette bonne œuvre. Donc, ils doivent être riches en bonne œuvre, faire du bien, être riches en bonne œuvre. Et puis, il dit, il donne un petit peu plus d'explications. Il dit, recommande-leur d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et là, il parle de la disposition avec laquelle ils doivent accomplir cette abondance de bonnes œuvres. La libéralité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la libéralité, selon vous ? C'est le fait de donner, oui. Ouais, très bien. Alors, parfois, la traduction peut nous tromper un peu. C'est ça qu'on a, nous, nous entendons souvent, le fait de donner beaucoup par libéralité. Ici, le mot est utilisé une seule fois aussi et il désigne le fait d'être dans une disposition de partage. Être, on pourrait dire, être prêt à donner. C'est pas seulement le fait de donner, mais être dans une disposition à donner. Un peu comme quand Jésus dit que votre Père céleste vous donnera. Il parle de la disposition de Dieu à donner à ceux qui lui demandent ici. Et là, il parle de la disposition que doivent avoir ceux qui sont bénis matériellement à partager, prêts à partager ce qu'ils ont. Et cette disposition n'est pas une disposition qui est naturelle au cœur de l'homme. Il suffit de regarder les enfants avec leurs jouets pour savoir qu'ils ne sont pas naturellement enclins à partager. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Et même les adultes, nous avons du mal aussi à partager. Celui que Dieu a richement comblé, eh bien, n'est pas non plus naturellement disposé à partager. Puis s'il l'était naturellement, il n'y aurait pas eu de recommandation dans la parole de Dieu à le faire. Donc ce qui est recommandé, c'est ce que nous ne faisons pas naturellement. Nous avons besoin d'être encouragés à le faire. Et donc, il dit ici que on sait que quand on possède quelque chose, on a tendance à s'attacher à cette chose et à dire « c'est à moi ». Un peu. Eh bien, Paul dit à Timothée, tu le recommandes d'être dans cette disposition de partage, toujours prêt à pouvoir partager ce qu'ils ont ici. Dans Ésaïe 58, vous connaissez ce passage d'Ésaïe 58 où il est question du jeûne, le jeûne que Dieu agrée. Et il dit, Jésus dit par l'intermédiaire, Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Ésaïe que voilà le jeûne qu'il agrée, que ce que le jeûne que menaient les Juifs de l'époque, le peuple de l'époque ne lui plaisait pas du tout parce qu'ils jeûnaient extérieurement, mais ils avaient dans les relations qu'ils entretenaient avec les autres beaucoup, il y avait beaucoup de faux semblants, beaucoup de méchanceté. Et au verset 7 du chapitre 58, il dit une des choses qu'ils doivent faire, l'attitude qu'ils doivent avoir. Donc le verset 7 dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » C'est un verset que j'ai lu peut-être il y a deux semaines parce que je cherchais un peu l'histoire de la mission Timothée. On chante des cantiques de la mission Timothée un peu. Et donc j'avais lu une fois, je ne me rappelais pas, j'ai dit tiens, je vais me rappeler comment est-ce que c'est né cette mission. Et ce verset-là était un verset qui a été un verset sous lequel est reposée à l'origine cette mission qui a voulu accueillir les gens qui étaient sans asile, sans abri, donc ils avaient un lieu où ils pouvaient passer et puis ils pouvaient recevoir de la nourriture, des vêtements et puis entendre une prédication de la parole de Dieu. Et donc il dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Et voilà ce que Dieu attend de ceux qui ont. Et en fait, on pourrait presque dire qu'on est riche quand on a plus que ce que l'autre a, celui que Dieu nous permet de rencontrer. Et donc, on doit saisir l'opportunité, lorsqu'elle se présente, d'aider, de venir en aide, d'avoir cette disposition. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ce n'est pas quelque chose qui est évident, parce qu'on a tendance à repousser la richesse sur les autres. Eux, ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent faire des choses. Moi, je n'ai que peu, je ne peux pas faire. Mais le texte dit ici, partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu as du pain et qu'il n'y en a pas, tu es plus riche. Et tu dois apprendre à partager à avoir cette libéralité, cette disposition au partage. Et il s'agit vraiment de cette attitude qui ne se détourne pas de son semblable, ne te détourne pas de son semblable, ne te détourne pas de celui qui est dans le besoin. Et certainement, il y avait dans cette église d'Éphèse des besoins, des opportunités. Et Paul dit à ses croyants qui avaient la possibilité d'exercer la libéralité envers les veuves, par exemple, on a vu, qui étaient dans la misère, qui avaient besoin, envers les anciens qu'ils devaient soutenir, par exemple. Donc, il y avait des opportunités de partager ce qu'ils avaient. Deuxième disposition, on pourrait dire, c'est la générosité. Alors, la générosité, c'est le mot qui est traduit par générosité ici. Nous, on pense toujours au fait de donner beaucoup. On pourrait dire ça, c'est presque dans la libéralité, là-haut. Ici, c'est un mot qui rappelle le mot, qui a la même racine que le mot qui donne communion, ici. Donc, il y a l'idée de partager la libéralité, mais dans un esprit de communion. On est dans une église, n'oublie pas, on est à l'église d'Éphèse. Dans un esprit de communion, c'est-à-dire, c'est le fait de ne pas donner froidement quelque chose. On peut donner froidement, hein. On peut donner un billet de 100 euros froidement à quelqu'un. Et on peut donner avec beaucoup de compassion, c'est de chaleur. On peut donner pour écarter, pour éloigner. Voilà, qui me laisse tranquille, je donne 100 euros et puis va-t'en. Tiens, prends 10 euros et puis laisse-moi tranquille. On peut avoir, être animé de cet esprit-là ici. Et ce que Paul dit, c'est ici, il dit que ceux qui sont dans l'Église et à qui Dieu a béni par les moyens, ils doivent être dans la disposition de partage, mais en plus dans la disposition qui partage et qui recherche la relation avec les autres. Même si c'est un plus pauvre que soi, il n'y a pas de lieu pour avoir des castes, des rangs, on est dans la partie qui aisée, la partie non, on est une famille. Et il dit doit avoir un esprit de communion, un esprit communautaire qui régit la manière de donner. Un peu comme dans Actes chapitre 2, 42, je vous lis, il dit tous ceux qui croyaient, c'était l'église primitive, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, c'est un peu l'idée ici, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ici, il y avait ici donc l'esprit de communion qui présidait le partage. Donc, on pourrait dire que ces deux mots se retrouvent dans l'attitude qu'avait ici l'Église primitive. Donc, ce que Paul recommande ici, ce n'est pas l'obligation, on pourrait dire, de partager son bien. La Bible ne met pas, je crois, ce genre d'obligation comme si voilà, tu es obligé de le faire, que tu le veuilles ou non, avec ou avec cœur. Non, on ne trouve pas ça. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre, pas de Pierre, de Ananias et Saphira, quand Pierre les a confrontés, dans l'église primitive aussi, et qui avaient voulu vendre un champ, qui ont vendu un champ, et puis qui ont gardé une partie de l'argent, et qui ont fait croire qu'ils donnaient tout. Ils ont voulu paraître généreux. Et Pierre leur dit ceci, il leur dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ?» Tu n'étais pas obligé de le vendre. « Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas en ta disposition ? Tu n'étais pas obligé de donner, même après l'avoir vendu. » Et ce que Pierre reproche, c'est le fait d'avoir menti, d'avoir vendu le champ, et d'avoir dit ça, c'est tout l'argent du champ pour s'attirer être bien vu du reste de l'assemblée. Donc, il n'y a pas obligation de faire ici. Néanmoins, ici, il dit que il recommande de considérer plutôt que ce que Dieu donne doit être vu comme une opportunité de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Il dit pas, vous êtes obligé de donner. Il dit, quand Dieu donne, voilà comment il faut considérer ce qu'il donne. Après, le reste découle tout seul. Hein. C'est bien parce que la parole ne donne pas une obligation à laquelle il faut se soumettre, elle donne un principe, une vérité qu'il faut toujours garder dans l'esprit. Ce que Dieu donne est une opportunité pour servir Dieu en servant les autres. Quelque part, il dit que le riche ne doit pas être chiche. On pourrait dire ça comme ça. Donc, une petite application ici. Quelle attitude nous avons à l'égard de nos biens, de ce que nous avons? Nos biens, c'est tout ce que nous avons. Hein. Voilà, on peut considérer qu'on n'a pas de biens et donc que l'on n'a rien à partager. Mais comme on l'a dit la dernière fois, hein, la manière pour nous de considérer ce passage, de l'appliquer, c'est vraiment de considérer que tout ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne. Et nous avons une attitude à avoir à l'égard de ce que Dieu nous donne, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu. C'est Dieu qui nous l'a donné et nous devons agir en conséquence fidèlement à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pensons à Jésus lorsqu'il était avec ses disciples et puis qu'il y avait une foule nombreuse et puis qu'il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Que ça. Et avec ça, ils ont quand même, Jésus a dit, quoi, il a dit, ben apportez-le. Et puis ils ont pu donner aux autres. Et c'est le principe qu'on doit retenir. Hein. On a, pour nous, à nos yeux, c'est que cette petite chose, que cette petite maison, que ce petit salaire, que cette petite voiture, que je ne sais pas, tout ce que vous voulez, petit, par rapport à ceux qui sont grands. Jésus dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Et il veut que nous servions avec ce qu'il nous donne. Peu importe la quantité de ce que l'on a, c'est l'esprit qui nous anime avec ce que l'on a qui est important. Est-ce que l'on est dans une disposition de partage, une position de libéralité, de communion? Est-ce que l'on veut servir Dieu comme cette veuve qui n'avait qu'une petite pièce, mais qui a voulu, qui a servi le Seigneur avec cette seule petite pièce qu'elle avait? Ça, c'était le second principe. Donc ici, hein, l'opportunité à saisir. Et puis troisièmement, on pourrait voir aussi au verset 19 que Paul parle d'une perspective à maintenir. Donc, verset 17, les pièges à fuir. Verset 18, des opportunités, une opportunité à saisir. Et puis le verset 19, une perspective à maintenir. Il dit, je lis depuis le verset 18, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Est-ce qu'il y avait une question pour ce verset? Ouais, vas-y, dis-moi. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez, il y a un lien quand même qui est établi ici. Comment est-ce que l'on comprend ça? Comment est-ce que vous avez compris cela ici? Parce qu'il dit, afin d'être riche en bonne œuvre, en libéralité, en générosité, afin de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide. Pardon. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Oui. Utiliser les richesses matérielles, c'est ce que tu as dit, hein, dans l'optique, oui. Très bien. D'autres? Oui. Oui, il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Ouais. D'accord, ok, très bien, d'accord. D'autres, merci. Alors, c'est évident qu'il y a un lien ici, hein, puisque l'apôtre Paul dit cela. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est un peu ce que vous avez dit. Il dit que la libéralité matérielle, il parle de fondement. Le mot fondement peut être compris comme un fonds, hein, fonds d'investissement, par exemple. Hein, comme, quand on parle de fonds d'investissement, hein, c'est un peu des choses comme ça. Donc, il dit que la libéralité matérielle correspond à un investissement spirituel dans la vie à venir. Donc, pour les riches, l'utilisation abondante des biens matériels dans l'œuvre de Dieu, un peu comme a dit Ebi, ou quand on donne, comme tu dis, à l'un des plus petits ici, hein, donc l'utilisation des biens matériels dans l'œuvre du Seigneur produit un rendement spirituel, quelque part. Hein. Donc, c'est de la vie à venir qu'il faut attendre un retour sur investissement. Parfois, on dit donner et vous recevrez au centuple. Parce que l'Évangile, Jésus dit, hein, si vous donnez, vous recevrez dans le siècle présent. Et on s'attend souvent à recevoir peut-être de la même nature. Hein. Quelque chose, je sais pas moi, j'ai donné 100 euros, je veux recevoir 300 parce que j'ai donné 100. D'accord ? Donc, j'ai du 300% de, hein, trois fois. Hein. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit qu'il faut s'attendre à... il ne promet pas qu'on va revoir ce que l'on a investi financièrement, mais matériellement. On ne va pas le revoir matériellement, mais on va le revoir spirituellement. Celui qui utilise ce que Dieu lui donne pour le bien des autres, et particulièrement dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, pour propager l'Évangile, soutenir des missionnaires, etc., toutes ces choses, eh bien, il dit qu'il est en train de se constituer, comme s'il dit, il se constitue un capital céleste, il se constitue un fonds, un investissement qu'il retrouvera, hein, qu'il retrouvera. Et ça fait penser au champ, par exemple, quand on, je sais pas moi, quand on aura envoyé des fonds pour soutenir une mission quelque part et des gens se seront tournés vers le Seigneur à travers cette mission ici, eh bien, ce sont des âmes qui se sont tournées vers le Seigneur aussi grâce au soutien qui a été apporté aux serviteurs et même à ces personnes, etc. Et ces personnes sont comme des, comment dirais-je, le rendement, je ne sais pas comment il faut dire ça, hein, si on parle en termes financiers, hein, le retour sur investissement. Sauf que c'est un retour spirituel. Et que grâce à ce moyen qui était nécessaire et dans lequel nous avons partagé, nous avons donné avec joie en nous associant, en ayant de la générosité, eh bien, il y aura quelque chose qui a une valeur spirituelle. Et quelque part, on sera aussi... Hein, responsable par ce que Dieu donne, responsable, participant, je vais dire peut-être c'est mieux, participant de cette retombée céleste. Et Jésus souligne quand même cet aspect dans Matthieu chapitre 16, verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moyens que l'on a matériels ne sont pas pour être accumulés sur cette terre. On va essayer de grossir au fur et à mesure notre compte, avoir une, deux, trois, quatre maisons. Il y a des gens qui courent après ça, c'est vrai. Mais bon, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une maison, d'avoir une deuxième, mais des fois, on court après cela et on veut avoir maison sur maison, capital sur capital. Et puis, on s'amasse. Mais tout ça, ça peut disparaître en un clin d'œil. Hein. Je lisais dernièrement que y a des gens, je crois que ma femme regarde une mère d'enfant qui est venue, qui a dit, voilà, qui a eu un héritage et puis qui dit, je vais investir tout de suite dans une maison parce que l'État risque de récupérer avec tout ce qui a été fait pour le chômage partiel et tout ça, risque de récupérer tout ce qui est argent liquide, alors vaut mieux l'investir dans de la pierre. Peut-être qu'elle a raison, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais alors j'ai lu des choses là-dessus et puis j'ai vu que parfois, en temps de grandes crises, etc., les banques, ou s'il y a une grosse faillite, l'État ne garantit pas au-delà d'une certaine hauteur. Hein. Alors, par exemple, c'était 100 000 euros, quelque chose comme ça. Bon, peut-être qu'on n'est pas nombreux à avoir 100 000 euros ici, hein, mais 100 000 euros, mais il dit, voilà, même si vous aviez 400, 500, 600 000 euros sur le compte, l'État ne garantit que 100 000. Et encore. Et ce que Jésus dit ici, c'est ça, il dit, quand on s'amasse, il dit, la teigne est là où ils peuvent venir et atteindre ces choses et ça peut disparaître rapidement. Par contre, quand ces choses sont utilisées et sont investies avec un objectif spirituel pour la propagation de l'évangile, par exemple, il, à coup sûr, il dit, ça sera gardé, ça sera préservé. C'est pas qu'on va retrouver des billets, mais on va retrouver le résultat de cet investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est souligné dans l'Écriture. Par exemple, Jésus parle au jeune homme riche, vous vous rappelez, hein, il dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, il fait encore le rapport entre ce que l'on possède matériellement, ce que l'on fait avec, et puis le lien avec le trésor dans le ciel. Rappelez-vous ce que Jésus dit quand il raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare qui menait joyeuse et brillante vie sur la terre et tous les jours habillé de pourpre, festin sur festin, etc. Et puis, il y avait Lazare qui était pauvre. Et vous remarquez que Jésus ne dit pas qu'il y avait dans une ville un homme riche et puis dans une autre un homme pauvre. Et que l'homme riche vivait somptueusement et que le pauvre, il avait des chiens qui venaient lécher ses ulcères dans l'autre ville. Il dit que les deux étaient au même endroit. Il a fait que le riche rencontre le pauvre. Et il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de partage, il n'y a pas eu de soin qui a été pris de la part du riche vis-à-vis du pauvre. Et quand les deux meurent, eh bien, il dit qu'il y en a un qui est dans le sein d'Abraham, l'autre qui est dans les tourments. Et quand celui qui est dans les tourments, l'homme riche, qui n'est plus riche maintenant, qui dit « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la langue », qu'est-ce qu'il dit Abraham ? Il dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » C'est un lien très fort entre, je trouve, la gestion des biens matériels et puis la destinée spirituelle quand même, quelque part. Alors Jésus ne dit pas que c'est parce qu'il est riche qu'il se retrouve dans cette situation. Mais il dit que la manière que l'on a de gérer les biens matériels sont un signe de notre piété, de notre appartenance vraiment à Christ. Quand il permet aux riches de rencontrer le pauvre et qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'il n'a pas vu l'opportunité d'utiliser, comme Paul dit à Timothée, ses biens et à le mettre pour au moins soulager le besoin du pauvre, eh bien, il a montré qu'il n'avait pas le cœur que Dieu veut avec cette richesse. Il l'avait dépensé que pour lui. Il était concentré sur sa richesse. Et Abraham le renvoie à cette attitude qui montre que dans son cœur, il n'y avait pas une véritable foi en Jésus et une confiance en Dieu, mais une confiance plutôt dans ses richesses. Et donc, Paul dit ici, attention, quand on donne avec libéralité, etc., eh bien, on s'amasse un fondement et on montre par là que l'on a véritablement saisi la vie véritable. J'ai lu cette histoire cet après-midi dans une prédication. C'est un pasteur qui raconte ça. Il disait même que c'était l'histoire préférée de Sigmund Freud. Vous avez connu Sigmund Freud, qui était le psychanalyste et tout ça. Il dit qu'il aimait raconter l'histoire de ce marin qui était naufragé sur une île des mers du Sud. Et donc, les indigènes l'ont capturé. Et puis, ils l'ont pris et ils l'ont mis sous ses épaules. Ils l'ont transporté dans leur village. Ils l'ont installé sur une espèce de trône, quoi, quelque part. Et puis, ils lui ont tout donné, etc. Et puis il était devenu le roi. Quoi. C'est lui qui gérait. Cet homme qui était capturé est devenu le roi. Et donc l'homme, il a appris que c'était en fait la coutume de ce peuple-là chaque année de faire d'un homme un roi pour un an. Capturer quelqu'un, c'est un roi pour un an. Et il a aimé beaucoup cette idée-là parce qu'il était roi. Hein. Et jusqu'à ce qu'il commence à se demander ce qui était arrivé à tous ceux qui avaient été rois pendant un an avant lui. Et il a découvert qu'une fois l'année écoulée, le roi était banni sur une île déserte et il mourait de faim. Alors le marin, il n'aimait pas la fin de l'histoire. Et ce qu'il a fait, comme il était roi, et qu'il lui restait encore un peu de temps, il a mis tous ses sujets, il était le roi, donc il avait autorité sur eux tous, il les a pris et il les a mis au travail, il leur a fait construire une maison en transplantant des arbres fruitiers, des plantant des cultures sur l'île déserte. Et à la fin de son année, comme il savait qu'il était banni, donc on l'a envoyé sur l'île et il avait de quoi manger. Et cette histoire résume un peu, quelque part, ce que Paul dit ici. Il dit, tu construis en investissant pour là où tu vas passer, en fait, l'éternité. S'il avait fait que se réjouir de sa position de roi, manger tout ce qu'il y avait juste à proximité et qui était que pour un temps, il mourrait quand il passerait de l'autre côté. Paul dit la même chose, il dit, pour ne pas perdre ce que Dieu nous donne, il faut l'investir dans l'éternité. Et l'investir donc dans les choses spirituelles, pour la propagation de l'évangile, pour aider à faire du bien aux autres et toutes ces choses. Donc je termine hein, ici, chers frères et sœurs, avec une question. Est-ce que vous vous dites, ah, si j'étais riche, voilà ce que je ferais. Il y a une chanson comme ça, vous dites, ah, si j'étais riche, da 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 da. Hein? C'est une histoire hein, où l'homme dit, mais Dieu, pourquoi tu nous as fait pauvres? Il dit, je sais que c'est pas mauvais d'être pauvre, mais non, il dit que je sais que être pauvre c'est pas une honte, mais c'est pas être fier non plus quoi. Donc on peut, il dit, si j'étais riche, juste une toute petite fortune. Et des fois on dit souvent, si j'étais riche, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. J'aurais pu donner davantage au Seigneur. J'aurais pu donner davantage à l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Notre texte parle à la fois à ceux qui désirent être riches, qui disent, ah, si j'étais riche, et puis à ceux qui sont riches. À ceux qui désirent être riches, on a vu, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et à ceux qui sont riches, il dit, soyez généreux et saisissez l'opportunité pour donner. Mais les commandements ne sont pas exclusifs. On peut toujours exhorter un riche à se contenter de ce qu'il a. Parce que quand on a, on peut toujours désirer vouloir plus. Et on peut aussi exhorter un moins riche à être généreux avec ce qu'il a. Donc les commandements sont croisés. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est dit à la fois pour ceux qui désirent être riches et pour ceux qui sont riches, les exhortations vont pour les deux. Donc, les exhortations qui sont là sont aussi pour nous. Nous devons apprendre à nous contenter dans un sens et dans l'autre aussi, être généreux avec ce que Dieu nous donne. Et il ne nous faut pas plus de richesse, mais plus de confiance en Dieu. C'est ce que ce passage nous montre. Il ne nous faut pas plus de richesse, mais plus de confiance en Dieu. Si j'avais plus, je donnerais plus. C'est ce qu'on dit parfois, mais c'est une douce illusion dans laquelle on se berce. On doit commencer à faire confiance à Dieu et à donner avec ce que l'on a. Vous vous rappelez de l'histoire de George Muller, hein, qui avait fondé un orphelinat en Angleterre au 19e siècle, et qu'il a financé ça uniquement par la prière. Il faisait connaître ses besoins à Dieu, il mettait tout cela dans son cœur, il comptait sur Dieu, faisait confiance à Dieu, et il y avait des personnes qui faisaient des dons. Mais George Müller n'a pas reçu, il n'a pas que reçu des dons, il en a lui-même fait énormément. Non seulement il a reçu, mais il a aussi donné beaucoup pour financer des missions. Et voilà ce qu'il écrit sur le thème de donner et recevoir. Il dit « J'ai pendant 50 ans agi par la grâce de Dieu selon le principe chrétien de donner selon les Écritures. Et je peux vous dire combien d'abondantes bénédictions spirituelles j'ai reçues dans mon âme en agissant ainsi, recherchant à être celui qui donne avec joie selon qu'il a plu à Dieu de me faire prospérer. » Ça veut dire, quand on a peu et qu'on donne, c'est qu'on fait confiance à Dieu pour pouvoir aux besoins. Il dit, j'ai commencé à donner quand j'avais comparativement très, très peu à dépenser. Mais selon ce que je donnais, Dieu a accru ma capacité à donner. J'aime bien ça parce qu'il ne dit pas Dieu a accru ma capacité financière. Il n'a pas accru mes bénédictions pour que mon compte en banque commence. Il dit non, Dieu m'a donné plus de moyens de donner, plus de capacité à donner, parce qu'il considérait toujours ce qu'il recevait comme une opportunité pour pouvoir donner. Et il dit, selon la richesse de sa grâce, il dit, un pauvre ver de terre sans mérite tel que moi a pu donc donner, et avec ses encouragements, j'ai pu dépenser année après année de larges sommes d'argent. Et donc on peut dire, c'est ça, que l'absence parfois de libéralité de notre part, la part du croyant, est souvent un signe, un manque de le signe d'un manque de confiance dans la puissance de Dieu, et ça prive de la bénédiction de voir la capacité à donner augmenter. Alors ce que l'on doit désirer, je crois, ce n'est pas être plus riche pour pouvoir donner davantage, mais c'est d'abord faire confiance à Dieu et puis savoir comment donner avec ce que nous avons. Parce que c'est en donnant avec ce que nous avons que notre capacité à donner augmente. Et le principe, l'apôtre Paul exprime très clairement dans 2 Corinthiens chapitre 9. Et je vous cite encore ce que dit George Müller. Il dit « Beaucoup de saints bien-aimés se privent eux-mêmes de merveilleuses bénédictions spirituelles en ne donnant pas selon la fonction qui leur a été donnée en tant qu'administrateurs. Ils agissent comme si tout leur était propre, comme si tout leur appartenait, comme s'ils étaient déjà en possession de l'héritage des saints et incorruptibles. Saints et incorruptibles. Ils oublient que tout ce qui leur appartient provient du fait qu'ils ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ et que tout ce qu'ils possèdent, leur force physique, leur temps, leur talent, leur business, leur profession, leurs yeux, leurs mains, leurs pieds, tout appartient au Seigneur Jésus-Christ car il les a rachetés par son sang précieux. Pour cette raison, puis-je implorer affectueusement en prière mes bien-aimés frères chrétiens de prendre ceci à cœur, de considérer que, jusqu'ici, ils se sont privés d'un très grand nombre de bénédictions spirituelles car ils n'ont pas suivi le principe de donner systématiquement et n'ont pas donné en retour pour la prospérité que Dieu leur donnait selon un plan. Je ne parle pas simplement de donner juste sous l'impulsion, selon le fait qu'ils en ont été inspirés par un sermon charitable ou missionnaire, mais le fait de donner systématiquement d'une façon habituelle selon ce principe, tel que Dieu le leur permet. S'ils le confient $1, ils devraient en donner une proportion. S'ils ont un héritage de $1,000, ils devraient en donner en conséquence. S'ils leur confient $10,000, ils devraient en donner une partie. Ils devraient donner en conséquence. Oh mes chers frères, je crois que si l'on réalisait les bénédictions nous donnerions ainsi selon le principe et nous donnerions 100 fois plus que maintenant. Alors, j'ai lu une histoire sur George Mueller cet après-midi et il semble, quand il avait très peu, il donnait déjà beaucoup. Et quand il a reçu beaucoup, il a continué à donner beaucoup. Il donnait 92%. Il gardait 8%. Et il donnait 92% de tout ce qu'il recevait. Et il disait qu'il avait de quoi s'occuper, de quoi... c'est pas lui qui le dit, c'est quelqu'un qui rapporte comment ça se passait pour lui. Alors bien sûr, la Bible ne dit pas vous devez donner 92% de ce que vous avez. Mais déjà on voit combien nous disons, la dîme c'est dans l'Ancien Testament. On est déjà dans le schéma bien, bien inverse. L'apôtre Paul dit que quand on donne dans 2 Corinthiens 9, Dieu donne toujours de quoi satisfaire à nos besoins et même de quoi encore continuer à donner. Et donc c'est une question qui nous est posée ce soir à nous riches, à vous riches. Je relis le passage du présent siècle. Ne soyons pas orgueilleux, ne mettons pas notre espérance dans les richesses incertaines, mais mettons-les en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il nous est recommandé de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de nous amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Que le Seigneur nous aide à comprendre vraiment la portée de ces paroles et de ne pas oublier que notre manière de donner détermine véritablement notre foi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui nous le met ici, sous les yeux. Très bien, que le Seigneur nous aide et nous sommes de bons dispensateurs, nous devons être de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu et mettre au service des autres ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons reçu de lui, tous les dons que nous avons reçus de lui. Voilà, je m'arrête là, on va juste prendre quelques heures, on n'a pas beaucoup de temps, j'étais un peu long ce soir, mais bon, pour prier.